Vous écoutez
RMC.
7h59 et il fait beau, Anthony.
Oui, mais les températures sont très contrastées entre le nord et le sud. Dans le ciel, c'est vrai, souvent du soleil. Pas un ciel tout bleu, hein. Il y aura quelques nuages entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Un voile de nuages parfois épais entre la Bretagne, le centre-Val de Loire et le nord des Alpes. Déjà quelques orages ce matin vers les Landes et on va retrouver dans l'après-midi ce risque orageux uniquement en montagne, sur les Pyrénées, le massif central, le sud des Alpes et le relief corse. Et donc cette fraîcheur au nord, notamment ce matin, 3 degrés seulement à Reims, 6 à Strasbourg et en cours d'après-midi entre 13 et 20 degrés sur la moitié nord, 17 pour Paris et 20 à 26 degrés quand même sur la moitié sud, là c'est presque estival, 26 degrés pour Bordeaux et pour Toulouse.
Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC, très bon lundi à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les cours du pétrole qui repartent à la hausse ce lundi matin. Réaction immédiate aux nouvelles tensions au Moyen-Orient. On va revenir dessus. Et alors que les distributeurs sont à nouveau convoqués à Bercy aujourd'hui. Vous allez voir que le RN poursuit son opération séduction. On va en reparler en envoyant donc une lettre au patron ce matin. Et aussi, tiens, que Victor Wembanyama a été énorme cette nuit pour le tout premier match de play-off de sa carrière en NBA.
On ne les compte plus, énième réunion sur les prix du carburant aujourd'hui à Bercy.
Des prix qui ont baissé, il faut le dire quand même, depuis une semaine. C'est ce que nous montrent les relevés du site carbu.com. Mais en fait, Thomas Becker du service politique à RMC, le gouvernement fait pression pour que ça baisse encore plus.
Oui, parce qu'à Bercy, toutes les marges des distributeurs sont surveillées et les courbes montrent que certains pratiquent un comportement non vertueux, explique un conseiller de Bercy. La majorité des distributeurs jouent le jeu, assure-t-il, avec des marges très faibles, parfois quelques centimes, mais d'autres profitent de la volatilité des cours pour ne pas répercuter les baisses à la pompe. C'est pour ça que le gouvernement garde dans sa manche son décret de plafonnement des marges. Un conseiller gouvernemental assure que le décret est désormais opérationnel, prêt à être dégainé, je cite, si le gouvernement constate que les effets d'aubaine sont généralisés, pointés du doigt, les distributeurs estiment que leur marge couvre à peine leur coût d'exploitation.
Et le constat, eh bien, c'est qu'on change nos habitudes comme une barrière psychologique, en fait. On met toujours le même montant au moment de faire le plein, une cinquantaine d'euros. Mais vu que ça coûte plus cher, tout ça est mathématique, eh bien, on en met moins et on va plus souvent à la pompe. Les passages en hausse de 16% sur un an en mars, d'après le site de transactions bancaires Joco. La preuve, écoutée avec Arthur Guillamot et Lucas Lobert pour RMC.
Les yeux rivés sur l'écran de la pompe à essence, José repose vite le pistolet. Il est loin d'avoir rempli son réservoir.
Ben moi, j'ai mis quoi? J'ai mis 10, hein? Je mets 10 là.
Le jeune homme préfère venir plus souvent à la pompe, une manière d'étaler les paiements.
Je vais faire que des petites dépenses d'essence en général. Ça coûte trop cher là en ce moment.
Même technique pour Sarah qui vient souvent faire des petits pleins. Son réservoir ne dépasse jamais la moitié.
On préfère qu'on voit 15-20 euros et pour nous c'est bon, ok. Et qu'un gros chiffre, ça fait moins mal.
Yu, lui, se dépêche de venir faire son plein de peur que les prix n'augmentent à nouveau.
Là, il y a 1,95. Quand j'entends qu'il y a tel prix à tel endroit et que c'est un bon prix, on y va avant que ça change.
Et puis depuis le début de cette crise énergétique, il y a ceux comme Othman qui veulent avoir leur réservoir plein en permanence.
Je préfère avoir le plein, on sait jamais, en cas de nécessité, mais je roule pas, comme avant.
Donc vous remplissez votre voiture, mais vous la laissez au garage, quoi.
Voilà, au parking, on sait jamais.
En attendant, il prend les transports en commun jusqu'à ce que les prix redeviennent raisonnables.
Alors ce matin, à ce sujet, eh bien, les cours du pétrole remontent sur les marchés. Avec les derniers événements au Moyen-Orient, Romain Houk pour RMC, à savoir l'Iran, qui ne veut pas reprendre les discussions qui étaient prévues avec les États-Unis.
Oui, la délégation américaine menée par le vice-président J.D. Vance est attendue ce soir à Islamabad, au Pakistan, pour un nouveau round de négociations avec l'Iran. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ces négociations paraissent pour l'heure mal embarquées. D'abord parce que Téhéran refuse de discuter, dit-on cette nuit à la télévision iranienne, si les États-Unis ne lèvent pas leur blocus dans le détroit d'Ormuz. Blocus qui a justement tenté de franchir un porte-conteneur iranien cette nuit. Il a été ciblé par deux tirs de l'US Navy qui en ont pris le contrôle. L'armée iranienne a prévenu qu'elle répondrait sous peu, je cite, à ce braquage maritime. De fortes tensions tout le week-end dans le détroit d'Ormuz. Samedi, ce sont plusieurs navires commerciaux qui ont été visés par des tirs iraniens. Cette fois, parmi eux se trouvait un bâtiment de la CMA-CGM, armateur français, propriétaire d'RMC. Le cargo a dû faire demi-tour. Donald Trump, de son côté, s'impatiente et menace. Il promet de détruire toutes les centrales électriques du pays si l'Iran ne s'assied pas à la table des négociations.
Et voilà dans quel contexte. Un conseil de défense va commencer là à 8h30 tout à l'heure donc à l'Elysée, présidé par Emmanuel Macron, qui se rendra ensuite en Pologne pour un déplacement consacré à la dissuasion nucléaire. Pendant ce temps, en France, c'est la présidentielle de 2027 qui se prépare. Les Républicains ont désigné leur patron Bruno Retailleau comme candidat à presque 74% sans passer par la case primaire. C'est toute la nuance, c'est un vote interne. Et le RN continue donc son opération séduction, même normalisation auprès des patrons en multipliant les déjeuners là depuis quelques semaines avec les dirigeants des grandes entreprises, Marine Le Pen récemment, Jordan Bardella encore aujourd'hui avec le MEDEF. Gladys Laffitte pour RMC, avec les informations de BFM TV, le RN écrit même une lettre aux patrons ce matin.
Ah oui, pour draguer les patrons, le RN propose dans cette lettre un grand projet de simplification pour lever les verrous, les normes qui freinent le développement économique de la France. Et pour l'appliquer, le RN passerait par ordonnance dès le début du futur mandat présidentiel. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont demandé à trois de leurs proches de rencontrer les patrons pour identifier les leviers d'action. Ils se disent même à la disposition des organisations patronales pour échanger dans les meilleurs délais. Un conseiller de Marine Le Pen jure que le RN ne prend pas un tournant libéral, mais je cite, veut aller chercher les 8% d'électeurs qui manquent pour la victoire. Mais la digue ne cède pas totalement. Le patronat n'a pas massivement pris parti. Pour le RN et ses idées eurosceptiques, se défend le président du MEDEF, Patrick Martin.
Le MEDEF qui est dans une série de déjeuners avec les chefs de partis politiques, dont Édouard Philippe, cette semaine. Tiens, puisqu'on parle de ça, d'euroscepticisme, pardon, on se demande si après la Hongrie, la Bulgarie va devenir le nouveau caillou dans la chaussure de l'Union européenne. On est au lendemain d'élections législatives remportées en Bulgarie à quasiment 38% par le parti d'extrême droite de l'ancien président aux idées pro-russes. La politique, c'est aussi le sort des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Romain Cluzel du service politique à RMC. Il y a débat, on le sait, autour de l'organisation des épreuves sur glace dans la ville de Nice avec le nouveau maire Éric Ciotti réticent. Il doit assister à une réunion aujourd'hui du comité d'organisation.
Et au cœur des tensions, l'Allianz Riviera. Pour l'instant, c'est dans ce stade de foot que les épreuves de hockey sur glace sont prévues. Sauf que pour cela, il faudra installer, puis désinstaller une patinoire dans l'enceinte de l'OGC Nice et obliger les Aiglons à changer de nid pendant plusieurs mois, ce que refuse catégoriquement Éric Ciotti. D'abord parce que le nouveau maire de Nice considère que la transformation du stade en patinoire est un gouffre financier et parce que le président de l'OGC Nice est l'un de ses plus proches soutiens. Sur ce dossier, aucun camp ne semble vouloir céder, à tel point qu'une autre ville est désormais envisagée pour accueillir les épreuves de hockey, Lyon. Le maire écologiste Grégory Doucet se dit prêt à cet événement, ce qui offrirait aux organisateurs des JO une solution rapide face aux tergiversations niçoises.
Bon, il est 8h07, on n'en parle pas tous les matins, mais aujourd'hui ça vaut le coup. Victor Wembanyama a disputé aux États-Unis cette nuit le tout premier match de play-off de sa carrière avec les Spurs de San Antonio, qui ont gagné d'ailleurs. On va voir ça avec vous, Antoine Salva. Vous avez suivi ce match pour RMC et vous nous dites que Wemby a été excellent.
Et oui, devant les fans des Spurs, le Français de 22 ans a livré une prestation digne de son statut de candidat au titre de meilleur joueur et meilleur défenseur de la saison régulière. Deux ans et demi après son arrivée en NBA dans le costume de numéro 1 de la draft, puis une deuxième saison tronquée par une blessure à l'épaule, Victor Wembanyama a pris les choses en main pour ses premiers playoffs face à Portland. 35 points, 5 rebonds, une passe et deux contres compilés en 33 minutes pour un succès de San Antonio 111 à 98. Titré à 5 reprises, la franchise texane, privée de playoffs depuis 2010, mène 1-0 dans ce premier tour de la Conférence Ouest au meilleur des 7 matchs. À San Antonio, on comptera de nouveau sur un grand Wemby lors de la deuxième manche programmée dans la nuit de mardi à mercredi.
Alors ce matin, c'est pas Wemby, c'est le joueur de tennis Arthur Fils qui fait la une du journal L'Équipe et qui redevient numéro 1 français d'ailleurs au passage. On est au lendemain de sa victoire au tournoi de Barcelone sur terre battue après 6 mois d'absence pour une blessure au dos, de bon augure avant Roland-Garros dans un mois. Tiens, et pour une fois, il y a du suspense en Ligue 1 de football. Lens a un seul point de retard sur le leader Paris qui a été battu par Lyon 2-1 hier soir. Ça se passait au Parc des Princes, 5e défaite de la saison pour les Parisiens qui ont un match en moins, mais les deux, Lens et Paris, doivent encore s'affronter. Sujet tout trouvé ce soir pour l'after qui sera en direct de l'Abège, c'est à côté de Toulouse, de 22h à minuit sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour
Emmanuel, le chiffre, est-ce qu'il faut craindre un retour de l'inflation dans les magasins et de quelle ampleur?
Alors, pour le moment, on a tous senti directement que la hausse des prix des carburants. Sinon, pour le reste, la hausse des prix, elle n'est pas encore parvenue dans les magasins. Pour le moment, elle est perceptible dans les usines et dans les fermes. Parce que ces usines et ces fermes consomment de l'énergie devenue plus chère, parce qu'elles ont besoin de produits dont les prix flambent avec le blocage du détroit d'Hormuz. On parle de l'hélium, de l'aluminium, du soufre, de l'ammoniac, qui, en plus du pétrole et du gaz, augmente les coûts des emballages, des engrais, des composants électroniques, des produits chimiques. À ce stade, constatent les industriels et les agriculteurs constatent des hausses de 5 à 8% sur un an de leurs coûts d'approvisionnement. C'est aussi rapide qu'au cours des premières semaines de la guerre en Ukraine, mais il n'empêche qu'au final, les industriels notamment anticipent un choc deux fois moins violent que cette guerre en Ukraine.
Alors si on regarde très concrètement dans les rayons, ça va donner quoi ?
Alors, la guerre en Iran, elle a commencé alors que se clôturaient les négociations commerciales sur des hausses modérées de 1% à peu près. Ça laisse quelques semaines de répit dans les rayons avant que se déclenchent les clauses de révision. Par ailleurs, la hausse des prix agricoles sera, elle, tout de suite répercutée conformément à la loi Egalim. Quand on regarde un petit peu le calendrier des hausses de prix qui nous attendent, on a les hausses les plus rapides qui concerneront les produits frais ou à péremption assez courte. On pense aux produits de la pêche, on pense à tous les produits laitiers. Lactalis a déjà dit que ses prix allaient augmenter. Il y a aussi les fruits et légumes, et particulièrement ceux qui sont importés à cause de la hausse du kérosène, à cause des coûts d'emballage. Donc, il va falloir acheter français si vous voulez préserver votre pouvoir d'achat. Et puis, il y aura ensuite les produits d'hygiène beauté. Ça, ce sera sans doute aux alentours de l'été, parce que le
pétrole... Vous avez vraiment le calendrier des hausses de prix, quoi.
Exactement. Je vous dis, et j'ai pas fini, vous allez voir. Et puis après, il y aura les produits alimentaires de longue conservation. Le riz, les pâtes, le sucre, sans doute pas avant la fin de l'été, le début de l'automne. Pourquoi ? Parce que là, on est encore, pour ces produits, sur des prix qui ont été négociés pendant que les récoltes étaient très bonnes. Donc ça, on est tranquille jusqu'à la fin de l'été. Alors, à l'automne, ça devrait se gâter, mais j'ai une bonne nouvelle pour l'automne. Figurez-vous que comme les prix du café et du chocolat se sont effondrés sur les marchés mondiaux, on devrait commencer à en percevoir les effets bénéfique. Donc, allez, une petite sucrerie.
On se désolera, c'est ça, on se désolera des prix du poisson, voilà, et des fruits, voilà, et légumes, mais on pourra manger du café.
Et au final, 4 à 5% de hausse des prix dans la distribution sont dans les tuyaux, nous dit UFC Que Choisir.
Et puis, chaque jour sur RMC, le journal des prix du jour de l'énergie. Ça monte ou ça descend ?
Bah, nos carburants, ça descend plutôt. Hein. 2,18 le litre de gazole contre 2,27 il y a une semaine. Donc là, c'est quand même assez sensible. Pareil, le samplon 95. Vous savez que la semaine dernière, on était scotché autour des 1,99. Là, on est proche de la barre des 1,95. Alors, le pétrole, on est toujours dans cette fourchette entre 90 et 100 dollars avec des volatilités qui atteignent 10 dollars le baril par jour en fonction des déclarations des uns des autres. Là, on est à 95,3. Et puis sur le gaz, bon, on a une petite tension depuis la fin du week-end, mais après deux semaines quand même de baisse, donc on est à 41 euros. Le mégawattheure, ça reste raisonnable.
Merci Emmanuel, il est 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et puis sur RMC, on voudrait partager avec vous les nombreuses réactions sur l'électrique, la voiture électrique. Est-ce qu'on n'est pas à un tournant, Mathieu ?
Oui, alors il y a encore les sceptiques. Hein. Alex nous dit « Je suis impatient de voir tout le monde à l'électrique » et surtout de voir que le gouvernement, qui nous prend quand même pour des pigeons, ne va pas s'asseoir sur les milliards que rapporte les taxes sur le carburant. Alex qui imagine une taxation à venir, soit sur le kilométrage, soit sur l'électricité. Pour l'instant, on n'en est pas là. Greg nous dit « Une voiture électrique à plus de 20 000 euros, qui est-ce qui va se la payer si on ne peut pas tous se le permettre ? On n'a pas tous les moyens », nous dit Greg. Johan, lui, témoigne, nous avons deux voitures électriques et donc nous ne dépendons plus du pétrole. Nous avions déjà arrêté de dépendre du gaz il y a 8 ans. Nous en sommes très heureux aujourd'hui. Voilà ce que dit Johan parmi les messages que l'on reçoit sur le WhatsApp RMC 0612 424 424.
Et dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint évidemment comme chaque matin à 8h30 le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la poursuite du conflit en Moyen-Orient ? Quelles conséquences sur le carburant, mais plus globalement sur les prix ? Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Puis juste après, sur RMC, ce sera le meilleur de Nicolas Canteloup. Rendez-vous comme tous les jours avec Nicolas Canteloup à 8h50. Il est 8h13, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h15, et comme tous les jours, il est avec nous, Arnaud de Manche. Salut Arnaud.
Bonjour, merci Apolline, oui, de ce magnifique lancement. C'est très français. Apolline et moi, nous sommes français. Et en France, les amis, on ne fait pas la guerre pour du pétrole ou de l'uranium. Non, en France, la guerre est plus sophistiquée, plus noble. La guerre, elle est aux éditions Grasset. Ah. Après le renvoi de l'éditeur Olivier Nora par Vincent Bolloré, on s'en fout de votre détroit d'Hormuz et du prix de l'essence. Nous, c'est la littérature, notre carburant. C'est la France. La crise du sans-plomb chez nous, c'est quand il n'y a plus de livres chez Plomb. Voilà. On dit merci qui ? Merci Albin et Michel.
Oh non !
Alors, crise à Grasset. En une semaine, Grasset a perdu une centaine de ses plus gros vendeurs, Virginie Despentes, Frédéric Becbédé, Arthur, mais aussi dans un autre registre, BHL. Mais j'ai pas mis BHL dans la liste des gros vendeurs de livres parce que, soyons honnêtes maintenant, vous avez déjà vu dans le métro quelqu'un lire un livre de BHL? Bah non. Est-ce qu'un ami vous a déjà recommandé un livre de BHL? Non plus. Est-ce que vous pouvez me citer le titre d'un livre de BHL? Je vous écoute. Voilà, on est tous d'accord. J'ai checké sa fiche Wikipédia, il a écrit un truc en 15 volumes, personne ne le sait. Alors, qu'on se rassure, Vincent Bolloré est déjà en train de préparer les titres pour la prochaine rentrée littéraire chez Grasset, notamment le premier roman Événement de Jean-Marc Morandini, Lolito. Lolito, l'histoire d'un animateur aux dents blanches qui tombe follement amoureux d'un jeune stagiaire. Ouais, parce que dans ce roman, j'ai voulu toucher un public plus jeune. On sait. La culture française vous dit merci, monsieur Bolloré.
Ah non, le conflit au Moyen-Orient continue.
Oui. Oh là là. Ah, oh, ouais, ouais, quelle histoire, hein. Et hein?
Ouais.
Bah ouais.
Bah voilà.
Et ouais. Si vous cherchez un expert pour le 9h-10h, Apolline, je suis là. Je suis dispo.
Formidable.
Non, mais ça va être long jusqu'à juin de trouver des blagues tous les jours sur le même sujet. Et en plus, c'est une guerre, quoi. La vie était plus sympa quand on parlait du renflement brun de Bruno Le Maire. C'est le bon vieux temps. Bon, blague à part, le détroit d'Ormuz était ouvert vendredi. Trump annonçait fièrement: l'Iran a accepté de ne plus jamais fermer le détroit. Good people. 3 heures plus tard, l'Iran fermait le détroit.
Voilà.
Good people. Pour protester contre le blocus américain, l'Iran ferme parce que les Américains ferment. Mmh. Voilà. C'est comme quand la CGT bloque une usine qui ferme.
Oui.
Ils arrêtent le patron, ils font « Vous rentrez pas, c'est fermé !»« Je sais, c'est moi qui ferme. » Non, c'est nous. Non, c'est moi. Non, c'est nous. Ok, et les ouvriers, c'est eux qui ferment. Non, pas comme ça. Bon, ouais, c'est très confus. Même la poste à côté de chez moi, elle est plus souvent ouverte que le détroit d'Ormuz.
Ah ouais, c'est dingue.
Le détroit d'Ormuz, en ce moment, dirait Christian Clavier dans Les Visiteurs. T'es ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert.
Mais c'est la rue. Les allons, ça devient casse-pied.
Ouais, Trump, c'est casse-couille, la fripouille. Il a les méthodes médiévales et il panique en face des Sarrasins. C'est le même, c'est le même.
En plein conflit autour du travail du 1er mai, Sophie Binet veut faire du 8 mars un nouveau jour férié.
Oui, la secrétaire générale de la CGT propose un jour férié lors de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Alors, économiquement, on n'a peut-être pas les moyens de s'offrir ça. Je propose de couper la poire en deux. On ferait un jour où seuls les hommes travailleraient.
Ah ouais?
Ouais. Les femmes resteraient à la maison. Ça veut dire que le nombre de DRH qui vont débarquer dans les bureaux en disant « T'oublies pas Jean-Pierre, hein, demain Sylvie elle bosse pas, mais toi t'es là. » Et le gars il va répondre:
je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme.
Ouais, la cause trans va progresser à une vitesse. En tout cas, c'est l'occasion de se détendre avec un petit queer.
Oh là.
Pardon, un petit quiz.
Ah oui.
Un petit quiz. Ce jour férié existe-t-il ou non? À gagner, Apolline, un jour férié, un jour de congé de plus offert par notre direction. Attention, ce jour de congé existe-t-il? C'est parti. Chaque 5 avril, les Taïwanais vont danser sur les tombes de leurs ancêtres.
Oh non.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai,
c'est
vrai. Mais non, c'est beau ça.
Les Texans ne vont pas travailler le jour du cholestérol day, puisque ce jour-là, ils meurent. Non, c'est
en groupe.
Chaque second dimanche d'août, le Turkménistan célèbre le melon.
Oui, ah, oui, oui.
C'est vrai.
Il faut pas l'inventer.
Au Liban, on célèbre le 1er juin 2001. Chaque 1er juin, seule journée depuis 50 ans sans bombardement. Le 8 mai et le 11 novembre ne sont pas fériés en Suisse.
C'est vrai. Possible,
c'est vrai. Ouais. Ça leur rapprendra à rester neutre.
Voilà. Pour eux, ils en ont perdu
deux. Au Dagestan, le 18 mars, c'est férié. C'est la journée du rat où on écrase des rats vivants en sautant.
Non, c'est, fou, si. C'est pas possible.
Non,
non, mais ça a l'air tellement typique. Le jour de la Saint-Étienne est férié en Islande.
Quoi?
Par solidarité avec les habitants de Saint-Étienne en France. Alors c'est faux, mais par contre c'est vraiment férié. Dans la Sarthe, la Sainte-Apolline est fériée.
Et ben moi je trouve que ce serait bien.
Ce serait bien. Moi, en fait, les couples se retrouvent dans leur cuisine et s'interrogent face à face pour faire le point sur leur relation. Chérie, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors première question, les Français s'interrogent. Ce SMS de Svetlana qui te dit « J'ai envie de toi ». Qu'est-ce que ça veut dire?
D'un côté, c'est une provocation russe. Poutine a infiltré mon téléphone et ça dure toute une journée. Et du coup, on peut pas aller au travail. Et du coup, la sainte d'Apolline est fermée.
C'est une bonne idée. C'est le 9 février.
C'est
le 9 février. Donc, férié désormais dans la Sarthe. Vous avez bien raison. Puis je trouve que c'est une belle thérapie de coup.
C'est un bon truc.
Le face-à-face.
Ça va bien se passer.
À un moment.
Le jour du ça va bien se passer.
Voilà, faut s'exprimer. Il est 8h21, mais n'importe quoi. Cette émission part en.
Ouais, j'ose ça pas va, dire.
Il est 8h21. Il y a Gérald qui est avec nous en direct, qui vit dans les Pyrénées-Orientales à Bompaz. Bonjour Gérald. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Je suis désolée, j'étais un petit peu dans les dernières blagues d'Arnaud Demanche. mais je vous accueille. Vous vouliez parler des prix du carburant?
Ben oui, parce que je disais que je comprends plus rien. Alors je sais pas, peut-être que j'ai dû régresser intellectuellement parce que
je sens l'ironie.
Baril. Ah ben oui, parce qu'on est sur un prix du baril qui la semaine dernière était en dessous des 90$.
Ouais.
Aujourd'hui, on nous annonce une hausse, mais il reste à 95. Mais pourtant, les prix à la pompe, eh ben, ils vont pas baisser. Et je pense même qu'ils vont profiter du fait de nous dire que ça a pris 8% pour nous remettre une petite couche, en fait. Donc, pour moi, le 2€ du litre, ça sera le minimum, il faudra faire avec. Et je pense qu'on nous prend bien pour des imbéciles.
Au quotidien, vous faites quoi, vous? Comment vous faites? Comment vous débrouillez?
Maintenant, je m'adapte. Il faut que je prenne le train parce que je travaille un peu sur Montpellier. Donc, forcément, je prends le train. J'ai pu être logé chez la famille.
D'accord.
Donc, pour s'adapter, c'est une adaptation de tous les jours.
Ah, vous avez vraiment changé votre organisation, vous?
Ah oui, carrément. Bah oui, à ce niveau-là, c'est plus du tout possible. J'avais appelé il n'y a pas longtemps parce que le prix, je parlais du prix en Espagne, à la pompe en Espagne.
Ouais.
Et donc, du coup, quand on va en Espagne, là, on est quand même à plus de 70 centimes. On est entre 60 et 70 centimes de différence. Alors, je veux bien entendre que la TVA a baissé, donc ce qui représente 10% de moins par rapport à la TVA française. Mais 10%, on est à de l'ordre de 15 centimes. Ça justifie pas non plus 70 centimes de différence, quoi. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a tout un système à revoir, à repenser.
Et comme vous le dites, effectivement, ce serait une sorte de table rase. Parce que si on est au jour le jour, je vous rappelle d'ailleurs que les distributeurs sont à nouveau convoqués à Bercy aujourd'hui pour leur mettre la pression. Merci beaucoup, Gérald, d'être intervenu au 32-16. Il est 8h23. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est l'ancien ministre de l'économie, justement, Thierry Breton, et ancien commissaire européen. Est-ce que c'est l'Europe qui doit finalement décider aussi d'une harmonisation des taxes? Vous en parliez à l'instant, Gérald, l'Espagne, mais aussi l'Italie, l'Allemagne ont chacun pris des mesures, mais il n'y a pas vraiment de coordination. Je lui pose la question dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien ministre de l'économie et ancien commissaire européen du marché au marché intérieur. Conseil de défense ce matin à 8h30 à l'Élysée et un tournant à nouveau dans le détroit d'Ormuz ce week-end. Un navire français hier soir, d'ailleurs CMA-CGM, propriétaire de BFM TV et RMC, a fait l'objet, je cite, de tirs de semonce dans le détroit d'Ormuz. Son équipage est sain et sauf. Du côté des États-Unis, on dit avoir arraisonné un bateau iranien. Qu'est-ce qui se joue dans les heures qui viennent? Peut-être d'ailleurs des négociations. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre là-bas et évidemment les conséquences ici?
Nous sommes encore, Apolline de Malherbe, dans cette phase de négociation. Et on sait qu'elles sont bornées par le fait que dans deux jours, le cessez-le-feu donc doit tomber. Et donc on est aujourd'hui en face de trois scénarios. Je crois qu'il faut bien les avoir en tête et aussi voir tout ce qui se passe. Évidemment, il y a des moments difficiles, voire potentiellement tragiques, parce qu'encore une fois, le détroit est bloqué et il est bloqué dans les deux sens. Il est bloqué par les Iraniens, il est bloqué par les Américains. Donc tous ceux qui essayent de passer, eh bien, il faut démontrer à l'autre qu'on est sérieux. Il faut démontrer à l'autre qu'on est sérieux.
Et parce donc que nous faire sommes... la démonstration qui
et
a voilà. été faite sur ces deux navires.
Et c'est ce que l'on voit. Alors maintenant, les trois scénarios, lesquels sont-ils? Le premier, c'est que dans les 48 heures qui restent, on tombe d'accord. On tombe d'accord sur un certain nombre de choses. Alors, les Américains ont beaucoup baissé leurs prétentions. On sait désormais que les buts de guerre, c'est rouvrir le détroit d'Ormuz et régler, si on peut dire, je mets des guillemets, vous voyez, le problème de l'uranium et le problème de la bombe atomique iranienne. Il y a encore des éléments à négocier, beaucoup. Mais enfin, c'est les buts de guerre maintenant. Donc ça, ça serait le premier scénario. Ce serait le scénario entre nous, aujourd'hui, où on en est, idéal, parce que, hélas, je dis bien hélas, tout le monde a abandonné l'idée que cette guerre avait pour but, aurait eu pour but et pour conséquence
un changement de régime.
Malheureusement pour la population iranienne, on sait que c'est derrière nous ça. Bon, on verra ensuite dans l'avenir. Pour l'instant, c'est fini. Deuxième scénario, bah, ce serait finalement que, voilà, on se rend compte que c'est compliqué et donc on va se donner un nouveau délai et donc un nouveau cessez-le-feu.
On poursuive finalement le cessez-le-feu.
Et donc on va se donner quoi, peut-être 10 jours, peut-être 15 jours. Mais attention, n'oublions jamais que Donald Trump doit aller en Chine le 14 mai. Pour lui, c'est un voyage qu'il a déjà repoussé. Il devait y aller le 30 mars, il l'a annulé parce qu'évidemment à cause de la guerre. Et ça, c'est très important pour les États-Unis, c'est très important pour lui. On sait qu'il est très affaibli et contesté aujourd'hui aux États-Unis à cause de la guerre. Donc, si jamais il remettait à nouveau, il le paierait politiquement très cher. Donc, on a peut-être une borne là. Et puis le troisième scénario, eh ben, ce serait le scénario
de la reprise de la guerre.
C'est évidemment celui qui serait le plus négatif. D'abord, évidemment, pour l'Iran, pour la région, mais aussi pour nous, Apolline de Malherbe. Quel est celui dont je pense qu'il est le plus probable? Je prends des précautions, j'ai pas de boule de cristal, mais vraisemblablement, c'est le scénario numéro 2. C'est-à-dire
gagner
du temps et se redonner du temps. J'en veux pour preuve le fait que Donald Trump a demandé à nouveau à son vice-président, Jill Evans, de mener la délégation américaine. Il semble qu'elle soit partie pour y aller. Il faut quand même une vingtaine d'heures pour y aller, donc très bien. On a vu que les Iraniens font un peu de la résistance, si je puis dire, parce qu'ils ont
maintenant... Ils disent à ce stade qu'ils ne sont pas prêts à négocier.
Donc voilà. Bon alors, ils sont eux à 3 heures de vol, d'Islamabad. Donc ils peuvent encore changer.
Ils peuvent décider
on va voir dans la journée. J'ajoute qu'ils ont besoin aussi de la chasse pakistanaise pour y aller. Le ciel aérien iranien, il est fermé. C'est quand même un paradoxe. Ce sont les Pakistanais qui assurent la protection donc de la délégation iranienne.
Thierry Bourdon, qu'est-ce que ça change pour nous?
Ah ben ça change, si vous voulez, pour nous, pour l'instant. D'abord, il faut toujours regarder les marchés. Les marchés aujourd'hui, ils ne sont pas affolés. Donc, ils misent plutôt sur le fait qu'on va trouver un accord. Parce que, encore une fois, et je crois qu'il faut s'arrêter une seconde, si vous le permettez, on était dans une guerre asymétrique. C'était finalement les Iraniens qui avaient le temps. Parce que eux, évidemment, ils peuvent bombarder à coup de drones à 30 000 dollars,
arrêtés
par des patriotes à 2 millions de dollars. Et donc, cette guerre asymétrique, une guerre de flux contre une guerre de stock, c'était les Iraniens qui avaient l'avantage. Les Iraniens, donc, ils misaient sur le fait que la population, les populations occidentales, nous autres, bien entendu, mais aussi les Américains, on se souvient qu'aux États-Unis, on le sait, aux États-Unis, le prix du gallon, il est passé de 2,80 $ à 4,10 $. C'est énorme, ça a un impact politique gigantesque aux États-Unis. L'inflation a redépassé les 3% pour être à 3,3%. Les taux d'intérêt recommencent à monter aux États-Unis. Et Donald Trump est le plus bas dans les sondages. Jamais un président des États-Unis n'a été, à ce stade, à 4 mois des primaires, aussi bas. Donc il paye un prix politique, il faut bien en être conscient, nous, très fort. Les Iraniens jouaient là-dessus. Sauf que, et ça, il faut vraiment s'arrêter là-dessus, les Américains ont fait quelque chose d'intelligent. C'est qu'ils ont fait un blocus dans le blocus. Ils ont dit, puisque c'est comme ça, nous, on va bloquer tous les bateaux qui vont en Iran ou qui en partent. Mais, Madame de Malherbe, l'Iran a besoin. L'Iran dépend également de beaucoup d'autres pays.
Oui, parce qu'on parle de tout ce qui sort de l'Iran, voilà, mais rien ne rentre.
Par exemple, le maïs. L'Iran importe 5,6 millions de tonnes de maïs. Ils en ont un besoin majeur. Le riz, les huiles, le sucre, bien entendu, les médicaments. Beaucoup de choses, les intrants évidemment qui vont servir, d'abord les intrants pour l'agriculture mais aussi les intrants technologiques pour faire leurs missiles et leurs drones. Donc l'Iran aujourd'hui commence à souffrir du blocus. Alors la population a énormément souffert des bombardements, mais j'allais dire, hélas, c'est tragique, je prends des précautions en le disant, ils ont l'habitude. Mais ces destructions font que désormais beaucoup d'Iraniens sont au chômage. Songez quand même, parce qu'on le sait peut-être pas, l'inflation est à plus de 50%, vous vous rendez compte, en Iran, à plus de 50%. La monnaie iranienne s'est dévaluée de 30% encore. Donc tout ça a un coût économique et social très important. Le bazar n'a plus, je dirais, de quoi fournir.
Le bazar dont on se souvient qu'il a été aussi l'un des lieux du déclenchement des dernières révoltes
les boutiques sont plus achalandées, alors les gens commencent à faire la queue, donc là ça commence à peser aussi.
Thierry Breton, vous avez dit plusieurs choses et je voudrais qu'on essaie de comprendre aussi ce qui se joue. Vous avez parlé d'inflation, vous avez parlé des taux d'intérêt, vous avez parlé aussi de la guerre des flux et guerre des stocks. Je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Vous parlez quoi, des munitions?
Alors évidemment, ce sont là les munitions, puisque les munitions pour pouvoir précisément d'un côté se protéger, et c'est évidemment toute l'architecture de sécurité que les États-Unis ont mis, y compris dans les pays du Golfe. Ça a fonctionné plutôt pas mal, mais enfin, il y a quand même 10% qui sont passés. Ben, 10%, c'est 10% de trop. Alors, peut-être un petit peu moins, mais enfin, il y en a qui sont passés et il y a eu des destructions très importantes, suffisamment, du reste, pour affaiblir d'un point de vue industriel l'ensemble des pays du Golfe. Et on sait, par exemple, que les Émiratis ont aujourd'hui reçu plus de missiles que Israël. Donc là, on est dans une logique où, effectivement, les Iraniens continuent à bombarder. Ils ont encore, il faut bien le savoir, ils ont encore des milliers de drones. Ils fabriquent à peu près encore, il y a beaucoup de destructions ont eu lieu, mais une centaine de missiles par mois. De l'autre côté, on fabrique en Occident, évidemment aux États-Unis, 40 seulement missiles antimissiles Patriot, donc pour protéger. Vous voyez, donc il y a un déséquilibre.
Dire, en fait, on met plus de temps, on met du temps à reconstituer nos stocks. C'est ça ce que vous voulez dire.
On met beaucoup de temps à reconstituer nos stocks.
Quand on dit on, c'est les Occidentaux.
C'est évidemment et les États-Unis, puisque ce sont eux qui fournissent évidemment la quasi-totalité donc de ces systèmes de protection, notamment auprès des pays du Golfe. Donc on avait aussi une asymétrie politique. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les Américains ont rééquilibré maintenant.
Avec le blocus du blocus.
Avec le blocus. Donc, on est dans une phase où, évidemment, chacun va essayer de montrer qu'il peut peser sur l'autre. Je crois qu'il faut le lire comme ça. Elle est très incertaine. C'est pour ça que j'ai indiqué 3 scénarios. Il me semble aujourd'hui que le plus probable, c'est le numéro 2. Mais on va voir.
Inflation, taux d'intérêt et question évidemment de l'impact. Le pétrole est légèrement reparti à la hausse. Est-ce que la France peut continuer à avoir quelques aides ciblées? Les premières entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui, mais elles sont complexes et elles sont moindres que ce que font nos voisins. Quand on regarde l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne en particulier qui baissent notamment les taxes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer une coordination européenne de toutes ces questions-là? On est tous confrontés à la même question et j'ai l'impression que chacun gère un peu à la petite semaine.
Oui, parce qu'encore une fois, c'est à la main. Encore une fois, alors vous voyez, il y a des fois on dit on a trop d'Europe, des fois on n'a pas assez d'Europe. Ces questions qui sont des questions de fiscalité, parce qu'à la fin c'est de la fiscalité, sont à la main des États membres et je crois que c'est une bonne chose. Ce qui reste à la main des États membres, c'est évidemment la diplomatie, c'est la défense, c'est la fiscalité et je crois que c'est important que ça le reste. Qu'il y ait de la coordination, oui, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce qu'on n'est pas encore dans une crise. On est dans une crise aujourd'hui.
On n'est pas encore dans une crise.
On est évidemment dans un impact très important, un impact économique.
Vous avez dit
important.
Nous sommes dans un choc des prix temporaire et artificiel. Est-ce que vous maintenez
Je le maintiens. Bien sûr, il faudra du temps pour revenir à une normalité. Mais enfin, regardez, avec ce qui se passe. Alors bien sûr, le baril est à 95 à peu près, en gros à l'heure où nous parlons, est à $95. Bon, on n'est pas à 100. Alors évidemment, on était à 65, 70. Mais voyez-vous, je crois vraiment que pour la France, d'abord, il faut qu'on le sache, hein, on est le pays qui est aujourd'hui en valeur absolue le plus endetté d'Europe et en proportionnalité.
On n'a pas les moyens.
Mais de toute façon, non, c'est vraiment le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. On n'a pas les moyens. Mais j'ajoute que aujourd'hui, ce qui est tout à fait important d'avoir en tête, c'est que l'État, effectivement, par la TVA, gagne un peu d'argent avec ça.
Est-ce qu'il doit le redistribuer ou est-ce qu'il doit s'en féliciter?
Il doit le redistribuer intégralement. J'ai calculé que par augmentation de $10 le prix du baril, on est à peu près parti à $70 avant la guerre, un peu
donc
moins.
Donc là, on a augmenté de 20 dollars.
D'une trentaine. Et ben par tranche de 10... l'État engrange entre 30 et 60 millions d'euros. Eh ben, par mois. Ça veut dire qu'en gros, une cinquantaine en moyenne. Eh ben, il faut intégralement redistribuer tout ça. Il faut évidemment que l'État ne fasse pas un sou de bénéfice, sur le dos de la situation. Et donc, le redistribue, c'est ce qu'il a du reste commencé à faire pour ceux qui en ont besoin. Évidemment, les marins pêcheurs, évidemment, les agriculteurs, évidemment,
Vous prenez une forme, je cite, de rigueur budgétaire. Vous dites qu'on devrait s'obliger à ne pas faire plus de 1% de déficit. Ça fait des années que tout le monde dit ça. Personne ne le fait. Personne n'a le courage de le faire.
Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous avez raison, je prône non pas cette discipline, mais cette trajectoire, comme les Allemands l'ont fait en 2009 et 2010. Les Allemands qui vivaient en coalition, parce qu'évidemment, il n'y a pas de parti majoritaire en Allemagne. Eh bien, droite comme gauche, ils se sont mis d'accord pour pouvoir se dire que désormais, dans la Constitution, pour se forcer. Encore une fois, il y avait un chemin. Alors chacun peut mettre dans ce chemin ce qu'il veut, plus d'impôts, moins d'impôts, plus de dépenses, moins de dépenses. Mais il y avait un chemin qui faisait qu'il s'interdisait d'avoir un budget en déséquilibre. Et c'est la droite et la gauche allemande qui l'ont fait. C'est faisable. Ce que je propose donc, parce que je vois bien ce qui se passe, on fait des tas de promesses, on fait des tas de projets, on fait des tas de programmes, et puis derrière, on a une Assemblée nationale qui est évidemment éclatée, et donc toutes ces belles promesses tombent dans le trou noir des dépenses publiques, et on n'y arrive pas. Donc ce que les Allemands ont fait, oui, je prône, moi, c'est ma proposition, donc de 1% de déficit, alors pas demain, en 2032, vous voyez, on a encore le temps, c'est pas très agressif, c'est une trajectoire, c'est le projet que je propose à l'ensemble des chefs de parti de mettre dans la Constitution française.
Que ce soit constitutionnel.
Comme les Allemands l'ont fait.
Donc,
comme les Allemands l'ont fait, juste pour
invariable
pouvoir...
au changement politique de l'Assemblée nationale.
Mais je le redis, bien entendu, mais je le redis, ça veut dire quand même tous les ans, parce qu'il y a 1% de déficit, on n'est pas à zéro, parce qu'on a un peu de croissance, c'est entre quand même 70 et 80 milliards de dépenses de plus par l'année dernière. C'est tout sauf de la rigueur.
C'est la discipline.
C'est la discipline, parce que, hélas, désormais, la France est indisciplinée, et cette indiscipline a un coût. Ce coût, c'est la prime de risque qu'on voit aujourd'hui.
Et c'est la capacité à pouvoir
Mais c'est aussi
réagir.
Notre intérêt, Madame de Malherbe. Aujourd'hui, on va payer, tenez-vous bien, dans un an et demi, on va payer 100 milliards d'intérêts par
sur
an.
Notre dette.
100 milliards pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Le budget de la France, le budget des administrations, c'est 350 à 380 milliards. C'est quasiment un tiers.
Et quelles conséquences sur les particuliers, sur les entreprises? Les prévisions de croissance viennent d'être revues légèrement à la baisse. On prévoit un retour de l'inflation, y compris dans les rayons, y compris alimentaires. Et vous parliez à l'instant des taux d'intérêt. Est-ce qu'ils peuvent aussi remonter, y compris pour les particuliers et
bien
les
sûr,
entreprises?
Bien sûr, les taux d'intérêt du reste ont maintenant tendance à remonter parce qu'évidemment l'inflation repart. Alors, on n'est pas du tout dans les situations, par exemple, qu'on a pu connaître lors de la guerre en Ukraine.
Au début de la guerre en Ukraine.
Parce que là, on part à une inflation qui peut aux alentours de 1,7. Donc, elle est parfaitement maîtrisée. Elle va monter un petit peu. Oui, c'est des prévisions. On a sans doute la croissance qui était anticipée à 1 ou 0,9. Peut-être qu'elle sera à 0,9 ou 0,8. C'est encore une situation qui est gérable. Mais, évidemment, il faut être très attentif.
Je vous sens, Thierry Breton, mon ressenti est juste, vigilant, mais pas outrageusement inquiet.
Je ne suis pas le seul, les marchés sont également dans cette perspective. Je ne dis pas que les marchés ont toujours raison, mais parce que je fais l'analyse comme vous, que aujourd'hui, compte tenu de la pression qui s'exerce sur les États-Unis et notamment politique autour de Donald Trump, il faut jamais l'oublier. Lui, il écoute les marchés. Les marchés lui disent, il faut maintenant arrêter. Parce qu'il n'y avait pas de but de guerre quand on est parti.
Vous avez vraiment l'impression qu'il l'écoute?
Oui, il écoute. Les seuls qui l'écoutent aujourd'hui, ce sont les marchés. Et il y a une personne qui joue un rôle très important pour lui rappeler, c'est sa directrice de cabinet.
La vigie, en quelque sorte, considère qu'elle a vraiment un rôle important aussi pour le canaliser.
Elle a repris vraiment la main, et on voit qu'il y a un peu plus de rationalité désormais pour l'atterrissage de cette crise. Mais les Iraniens aussi ont désormais besoin, à cause, grâce, on peut dire ce qu'on veut, de ce blocus dans le blocus, désormais, il y a une sorte de réciprocité de l'impact politique et sur les populations. Donc tout le monde, désormais, a intérêt à faire atterrir, je dirais, un accord, y compris, par parenthèse, ceux qu'on oublie mais qui sont très présents dans la région et de plus en plus présents, les Chinois.
Thierry Breton, deux questions encore. L'une d'abord sur Elon Musk, puisqu'on est en train de parler des États-Unis, et convoqué par la justice française. Vous avez eu un véritable bras de fer, je dirais, par réseaux sociaux interposés avec lui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quel regard vous portez aussi là-dessus?
Écoutez, j'ai compris qu'il avait, il était convoqué par la justice française parce que, si j'ai bien compris, il y a eu un moment où son réseau X et notamment son programme Grok d'intelligence artificielle pouvait tout simplement déshabiller n'importe qui. Et que c'est totalement illégal et que malgré les demandes de retirer tout cela, ça n'a pas été fait. Donc je pense qu'il y a peut-être matière à s'expliquer. En tout cas, c'est ce que juge. C'est évidemment illégal et c'est contraire au droit. Et donc il doit se plier. Comme tout le monde. Et encore une fois, il ne s'agit pas de brimer. J'entends dire que le premier amendement américain dit qu'on peut dire tout et n'importe quoi aux États-Unis, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on peut dire tout n'importe quoi aux États-Unis qu'on peut dire tout n'importe quoi en Europe. Et donc, si jamais il veut utiliser, avoir la chance de pouvoir vendre ses services X en Europe. Je rappelle qu'on est le premier marché le plus solvable au monde en matière donc de marché numérique. On est une fois et demie plus important que le marché américain en nombre de personnes, et donc c'est très important dans le marché numérique. Ben, s'ils veulent pouvoir le faire, il faut tout simplement qu'ils se plient à nos règles, quels que soient, encore une fois, les messages qu'il envoie aux États-Unis. Ça nous regarde pas. Il fait ce qu'il veut.
Mais s'il est en
Europe, il doit juste respecter la loi et le droit européen.
Thierry Breton, vous êtes l'ancien ministre de l'économie et ancien ministre au marché intérieur. Aujourd'hui, le MEDEF commence un certain nombre de déjeuners. Ils déjeuneront cette semaine avec Édouard Philippe, avec Marine Tondelier. Mais aujourd'hui, c'est Jordan Bardella. Déjeuner avec le RN. Est-ce que c'est pour vous du réalisme, une sorte de réel politique, ou est-ce que c'est une manière d'adouber ou de banaliser le Rassemblement national?
Mais le MEDEF est une organisation patronale. Et le MEDEF, évidemment, donc en tant qu'organisation, ça me semble parfaitement légitime, qu'il le voit, toutes celles et tous ceux qui aspirent à être président, à diriger notre pays, et surtout quand on a des programmes économiques qui sont pas très très précis, pas très clairs. Pour l'instant, je n'ai pas entièrement compris la finalité du programme économique du MEDEF.
Du Rassemblement national.
Mais évidemment, le MEDEF, on n'a pas de programme, il est là. Que le MEDEF reçoive tous ces candidats, ça me semble parfaitement légitime, et c'est, je dirais, son rôle. Alors après ça, en tirer les conséquences et les conclusions qu'on veut, ça je laisse à chacun le soin de le faire. Moi, ça ne me choque pas du tout, bien au contraire, que le MEDEF
prenne le temps
de les écouter, mais aussi de faire savoir ce qui est important pour l'économie française et pour la compétitivité de nos entreprises.
Merci Thierry Breton d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Alain Bauer était mon invité dans le face-à-face. Il était resté, souvenez-vous, face à Canteloup. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Nous avons évidemment parlé de l'Iran. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour Monsieur le Président.
Hey, bonjour. Mais oui, c'est la guerre, je remets les lunettes de Top Gun. Ça a bien marché la dernière fois, vous souvenez, hein? Waouh, c'est mon look warrior, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, un avion de chasse. Mais non, c'est vous, Apolline. Ça fait plaisir, un petit compliment comme ça.
Oui, bon, allez, hein? Monsieur le Président, un peu de sérieux tout de même, c'est la guerre.
Oui, pardon, vous avez raison, redevenons sérieux, il y a Alain Bauer face à nous. À ce sujet, j'ai décidé de mobiliser en urgence tous les réservistes. De la gendarmerie, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, comme Monsieur Bauer qui est colonel de réserve de l'armée de l'air, il faut le savoir, même si c'est vrai que quand on l'entend parler sur tous les plateaux, la réserve, c'est pas trop son truc. Hein. Bref, les réservistes mobilisés auront pour mission de sécuriser les sites stratégiques français les plus importants, c'est-à-dire les ronds-points.
Les ronds-points, c'est-à-dire comment ça, l'armée va sécuriser les ronds-points?
Écoutez, vu comme ça pète de partout au Moyen-Orient, demain on va se retrouver avec le litre d'essence à 5 euros. Ah. Hein, et puis la suite, on la connaît, c'est le retour des gilets jaunes sur les ronds-points, les banderoles, Macron démission. Donc, je pensais avoir faire une dernière année sympa, mais là, Trump est en train de tout me saloper. Hein. Quoique, finalement, l'international, c'est quand même le truc où je brille le plus.
Donald Trump a donc attaqué l'Iran et il est avec nous ce matin pour en parler.
Yeah, bonjour Pauline de Malherbe, Chine de Malherbe. J'ai gagné, c'est moi, j'ai éliminé l'Ayatollah Khomeini. J'étais obligé d'employer la force parce que les Iraniens ne savent pas négocier avec moi. Et aucun effort, et pas pour proposer de m'offrir un avion présidentiel gold, pas proposer de terrain pour construire un club de striptease à Téhéran, même pas une petite Stormy Daniels locale.
Ah oui, bon, ils savent pas y faire avec vous, dis donc.
Mais c'est pas ma faute, c'est l'affaire Epstein. Et comme on en parlait trop, il fallait attaquer l'Iran pour faire diversion, tu vois. Comme j'avais déjà fait avec Maduro, Venezuela ou avec le Groenland. Alors voilà, maintenant vous le savez, si vous voulez la paix dans le monde, c'est simple. Arrêtez de parler du dossier Epstein.
Le conflit au Moyen-Orient fait craindre une flambée des prix du pétrole qui pourrait atteindre 120 dollars le baril. Bruno Le Maire, tiens, vous êtes là, bonjour.
120 dollars le baril, non mais c'est génial. Une opportunité unique, Madame de Malherbe, pour relancer l'économie du pays. C'est inespéré.
Mais comment ça?
Mais c'est tout con. Vous allez à une station-service, vous remplissez un jerrycan, ça vous coûte 40 balles, et samedi, vous le revendrez 150. Vous imaginez la culbute?
Ah ouais.
Mais je pense aussi à ceux qui n'ont pas les moyens de remplir un jerrycan. Donc vous remplissez juste une tasse à café ou un dé à coudre. Hein, ça marche aussi. Même les pauvres peuvent participer.
Oui, ça se tient, ça se tient.
Oui, et on peut même aller plus loin même de manière... Ah. Moi, si j'étais à la place de Le Cornu, je ferais comme au poker. All-in, je miserais tout le budget de la France pour acheter des barils. Hein, fin de semaine, on les refourgue et je peux vous dire qu'on les rembourse, nos 3000 milliards de dettes. Hein. Et vous savez pourquoi on ne le fait pas? Vous savez pourquoi on ne le fait pas?
Non.
Vous savez pourquoi on ne le fait pas? Mais parce que je ne suis plus au gouvernement.
Ah, mais c'est ça! Mais bien sûr!
Mais voyez,
c'est parce que vous n'êtes plus au gouvernement!
Mais oui, le redressement d'un pays, vous voyez, ça tient à rien.
Ah ouais.
J'ai bien retourné le truc.
Ah ouais.
Je me suis refait une image de winner.
On peut le dire comme ça. Une des conséquences totalement inattendues de cette guerre, c'est Vincent Moscato qui passe justement ses vacances à Dubaï et qui se retrouve coincé là-bas. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le super Moscato Show.
Coincé, faut le dire vite, Apolline, faut le dire vite. Quand t'es coincé au boulot, oui, t'es coincé, mais quand t'es au bord de la piscine, j'appelle pas ça coincé, tu vois. Je te raconte, j'étais au bord de la pistache, tu vois, tranquille, face au séducteur, tu vois, avec le maillot léopard classique. J'attends que ça pétarade, je me suis dit, bon, c'est Dubaïote, tu sais, ils sont bling-bling, ils font des feux d'artifice tous les jours pour un oui, pour un non, tu vois. Puis même si je me disais, c'est en plein jour, c'est con de faire un feu d'artifice en plein jour, tu vois, que dalle, quoi. Puis là, tout d'un coup, je vois quoi? Toutes les gonzesses, tu vois, toutes les gonzesses, j'arrive, influenceuses, tu vois, qui tournaient des vidéos pour la pistoche, qui lâchent leur perche à selfie, tu vois. Ils se barrent en courant à l'intérieur de l'hôtel, façon panique, ils manquaient que la musique de Bénil, tu vois. Et là, je vois un truc qui arrive sur moi, je dis, tranquille, donc je lève ma carcasse, je vois très vite le truc, je l'attrape le truc, je réflexe de rugbyman, tu vois, je fais drop direct, tu vois, avoir une deux, tu vois, le bordel, il se plante à 200 mètres de là, tu vois, il explose, il fait un gros boom, une sur une île, rasée, les palmiers, plus de plus d'arbres que dalle. Ouais, alors il y a un monsieur qui arrive et qui me dit, monsieur Moscato, comment faire ça? Parce qu'apparemment, c'était un missile iranien. C'est pas passé loin, Pauline, t'imagines, il me dit comme moi. Et qui c'est qui me remplace pour le super Moscato Show? Antoine Dupont, tu vois le truc, bienvenue au super Dupont Show.
Ah oui.
Dupont Show, putain, c'est bien pour une radio péruvienne, pas pour rien, monsieur.
Soyez prudent quand même, Vincent. Hein.
Ah ben là, je ne sors plus d'hôtel.
Ah oui.
J'ai consulté les bois. Il m'a dit au téléphone, il m'a dit, sors plus d'hôtel. Je fais mon émission, tu vois, quand même, à distance, tu vois, tranquille, confiné à ma chambre, et dans des conditions difficiles.
Ah. Vous venez d'entendre une détonation, là, Vincent, ça va?
Non, ne t'inquiète pas, c'est juste au room service qui vient de déboucher un magnum de champagne pour le petit-déj.
Ah, oui.
La guerre, comment la guerre?
C'était Nicolas Canteloup, place au GG. Quel est le programme, Olivier?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent pour 3 heures de débat sur l'actualité à partir de 9h sur RMC, RMC Story. On parlera notamment de l'opération séduction lancée par Jordan Bardella vis-à-vis des patrons. Le candidat, sans doute, du RN veut séduire les chefs d'entreprise. Est-ce qu'on y croit? Est-il crédible? Ça sera l'un des débats dans les GG. À tout de suite.